VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. En RDC, controverse, le gouvernement accuse les casques bleus d'avoir tué 5 civils dans une opération militaire dans l'est du pays, ce que dément la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, Eddy Sango.
La mission de l'ONU en RDC a conclu après enquête que les allégations congolaises ne sont pas exactes, a déclaré à New York le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric. Mardi, la MONUSCO avait annoncé avoir déployé, dans le cadre de son mandat de protection des civils, des hélicoptères de combat contre des rebelles qui incendiaient des villages depuis plusieurs jours en territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Les porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, que cite l'AFP, a fait état des 5 civils tués et déploré que les casques bleus n'aient pas coordonné l'opération avec l'armée nationale. Selon le porte-parole onusien Stéphane Dujarric, une équipe des casques bleus et des responsables locaux rendus sur place a confirmé la mort d'un combattant. Face à cette controverse, Juvenal Munubo, député national originaire de Walikale, a appelé à une enquête indépendante pour faire la lumière sur l'affaire.
Au Rwanda, le Parti démocratique vert d'opposition débouté par la haute cour rwandaise dans sa tentative d'empêcher une réforme constitutionnelle ouvrant la voie à un troisième mandat du président Paul Kagame en 2017. Au micro de Timothée Donangmaï, l'analyse de Chika Kanyuri, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique.
C'est pas étonnant, c'était prévisible, c'était écrit. La chose la plus surprenante qu'on ait d'ailleurs permis cette procédure, puisqu'on sait que, comme d'habitude, comme c'était dans les années 70 en Afrique, lors des partis uniques, on sait que les décisions, toute la mise en scène qui est faite ne vaut pas grand-chose. On sait que les décisions sont déjà prises. Mais on fait semblant de donner la parole au peuple pour essayer de voir, de faire semblant de donner quand même une procédure légale à des décisions qui sont déjà prises par le régime. Mais ce qui est quand même malheureux, c'est que quelqu'un comme Kagame, ça veut dire qu'il aurait pu au moins faire la même chose comme Poutine en Russie, c'est-à-dire il aurait pu rester, c'est pas chef du parti, puis laisser quelqu'un pour respecter un peu des formes. Mais je pense qu'il y a probablement des gens extrémistes de son groupe qui ont voulu absolument qu'il garde toute la main ouvertement sur tout.
Chika Kanyuri, rédacteur en chef du magazine Transatlantique, joint à Montréal. Au Tchad, grogne au sein des syndicats des travailleurs du secteur public suite à la crise financière que traverse le pays. D'où la rencontre de réflexion hier et avant-hier sur la stratégie de mobilisation des ressources et de maîtrise des dépenses publiques à laquelle ont participé des membres du gouvernement ainsi que les partenaires techniques et financiers du Tchad. Le bilan de cette réunion avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajingar.
Le Tchad traverse une crise financière pour trois raisons principales. La chute du prix de baril du pétrole, son intervention au Mali qui a coûté 200 milliards de francs CFA et son engagement militaire contre le groupe d'État islamique ex-Boko Haram qui se chiffre à environ 12 milliards de francs CFA par mois. Situation qui ne permet pas à l'État tchadien de payer le salaire des fonctionnaires à terme échu, la bourse des étudiants, les pensions de retraités et de verser le subside des maîtres communautaires. Cette rencontre de deux jours a débouché sur l'application d'une feuille de route visant entre autres à supprimer les téléphonique de l'administration à l'international, de suspendre les évacuations sanitaires et de réduire de 50% les indemnités des membres des institutions de la République pour les trois derniers mois. Ngarlena Dogjengar est le ministre des Finances et du Budget.
Les indemnités de haut cadre d'État, c'est une question qui a fait beaucoup de débats, mais au niveau du gouvernement, nous nous sommes dit c'est un geste qu'il faut le faire pour faire comprendre à l'opinion quelles sont les difficultés où nous sommes confrontés. Au titre de l'année 2014, nous avions dépensé 2,4 milliards pour les évacuations sanitaires. Il était question de limiter, surtout pour les cas d'urgence et en cas de besoin, faire recours à nos structures sanitaires de la place.
Cette panoplie de textes contenus dans cette feuille de route est une imposition du gouvernement, estime Aladoum Balthazar Djarma, porte-parole adjoint de la Convention pour le changement et l'alternance démocratique.
On pensait à faire des commissions pour que les gens s'expriment librement et prennent des décisions conséquentes. Malheureusement, nous sommes rendus compte qu'on a été devant un dictat, des résolutions d'une feuille de route qui n'ont pas été adoptées, mais pratiquement imposées parce que la majorité de l'Assemblée n'a pas été entendue. Nous sommes en train de jouer au médecin après la mort. Donc en ce moment, toutes ces mesures prises, leur application posera un problème.
Pour le Premier ministre Kalzebe Paimidebe, l'adoption de cette feuille de route est un pari gagné pour le gouvernement.
Ce qui importe pour nous, c'est la définition des actions issues de l'épreuve de vérité que nous nous sommes imposées, les résultats encourageants auquel nous sommes parvenus nous détermine davantage à l'amélioration continue de notre gouvernance financière, sous-entendue par les principes de rigueur dans la gestion de la fortune publique.
Une commission a été mise en place pour suivre l'application intégrale de cette feuille de route pour permettre de réduire le train de vie de l'État, mais aussi d'avoir des ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements. André Koduma Dingar Ndiamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Guinée, incertitude à l'approche de l'élection présidentielle de dimanche, non seulement sur les chances de victoire du président sortant Alpha Condé au premier tour, mais aussi sur l'acceptation des résultats par l'opposition. Le point avec Idrissa Sédoudia.
La campagne est entrée dans sa dernière ligne droite avec les ultimes meetings de campagne des principaux candidats de retour dans la capitale après avoir bouclé leur tournée dans l'intérieur du pays, dont le chef de l'opposition, Selou Dalein Diallo. Selon l'AFP, M. Diallo a de nouveau exigé un report du scrutin pour permettre à des experts électoraux désignés par la communauté internationale de rectifier les listes électorales qu'il estime truquées en faveur du pouvoir. Sinon, on n'acceptera pas les résultats et je mobiliserai avec tous les autres candidats la population pour refuser, a assuré Selou Dalein Diallo. La campagne du président Condé s'est fixée l'objectif ambitieux sous le slogan « Un coup KO » de le faire réélire dès le premier tour.
Guinée toujours, la HAC, la haute autorité guinéenne de la communication, a interdit l'annonce ou la publication des résultats du scrutin du 11 octobre avant leur proclamation officielle par la Commission électorale nationale indépendante. Une interdiction qui concerne tous les médias, l'Office guinéen de publicité OGP, ainsi que les opérateurs par téléphonie. Décision rejetée tant par la classe politique que par les professionnels des médias. Au micro de Jacques Aristide, la réaction du président de l'association des blogueurs guinéens, Fodé Sanikaï Kouyaté.
Il n'y a aucun mal à ce que les résultats soient diffusés. Ça s'est passé en 2010, les élections, il y avait plus de tensions. Ça a été diffusé, ça n'a pas créé de problème. Les élections législatives, ça a été diffusé dans les radios, ça n'a pas créé de problème. Le code électoral le dit immédiatement après le dépouillement que le président du bureau de vote doit rendre public le procès verbal et doit afficher une copie devant le bureau de vote. Tout le monde peut communiquer dessus. Donc ça n'a absolument pas de sens. C'est simplement liberticide. Donc ce n'est pas du tout légal. C'est un engagement qu'ils ont pris avec les autres médias.
Mais voilà ce que dit l'article 11 de la décision prise le 19 septembre par la HAC. Après la fermeture du dernier bureau de vote et jusqu'à la proclamation des résultats provisoires par la CENI, aucun organe de presse ni l'OGP n'est autorisé à communiquer un résultat quelconque à travers un quelconque support. Ne pensez-vous pas que vous allez défier la décision de la HAC?
Non, ce n'est pas une décision démocratique, ce n'est pas une décision qui contribue à la liberté de la presse. Au contraire, ceux qui pensent être de problème, c'est eux qui vont créer des problèmes parce que quand les gens n'ont pas de bonnes informations, c'est les rumeurs qui vont prendre le dessus. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire que dans un bureau de vote ou qu'on peut rester, faire des élections et attendre que la CENI nous diffuse les résultats. Alors que les citoyens qui sont dans les quartiers, qui sont tous des médias, qui peuvent diffuser à des milliers de personnes qu'eux, ils ne communiquent pas le résultat de leur bureau de vote. Nous ne vont pas à l'encontre des décisions de la HAC, mais c'est une décision légale que les procès-verbaux soient rendus publics. C'est là qu'il faut placer le débat.
Fodé Sanikaï Kouyaté, président de l'association des blogueurs guinéens. Le prix Nobel de la paix 2015 a été attribué au Quartet pour le dialogue national en Tunisie pour sa contribution décisive à la construction d'une démocratie pluraliste à la suite de la révolution du jasmin de 2011. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le comité Nobel norvégien. Le Quartet, composé de la Fédération syndicale UGTT, du patronat tunisien, de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et de l'ordre des avocats, a permis de sauver la transition démocratique alors que le pays était au bord de la guerre civile en raison d'assassinats politiques et de vastes troubles sociaux, a souligné le comité du Nobel. Et pour terminer, l'Union européenne a salué aujourd'hui l'annonce par l'émissaire de l'ONU, Bernardino Leon, hier soir, de la formation de gouvernement d'unité nationale en Libye à l'issue de longues négociations entre les parties libyennes. C'est une opportunité à ne pas gaspiller, a souligné le président du Conseil européen, Donald Tusk. La Libye a eu trop peu d'opportunités de paix durable, a-t-il ajouté. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.